Céline, la maltraitance animale débattue à l'Assemblée nationale, à Paris, les députés examinent une proposition de loi pour la protection des chiens et des chats, mais aussi les dauphins, visons et autres reptiles. Le texte fait écho aux préoccupations de la société dans un pays où une personne sur deux possède un animal. Toutefois, ne sont pas abordés les sujets qui fâchent comme la chasse, l'élevage intensif ou bien la corrida. Enfin, en Ouganda, la justice a ordonné à l'armée de mettre fin à l'assignation à résidence de Bobi Wine. De nouveau libre de ses mouvements, le chanteur et député de l'opposition a pu accueillir ce matin chez lui les membres de sa famille et de son parti politique. C'est la fin du journal. Très bonne journée sur RFI.
Radio G 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la seule quotidienne sur l'antenne de Radio G. Du lundi au jeudi à 18h10, on parle ensemble de découvertes culturelles et locales, des choses que l'on espère un peu plus apaisantes, mais pour autant pas déconnectées du monde. Il y aurait tellement de choses à évoquer ensemble. Ce soir, nous irons dans l'atelier d'Améliane Jouve, une artiste plasticienne qui est en ce moment en résidence de création, à l'invitation du collectif Blast. On va découvrir les formes qu'elle fabrique et les thématiques qui l'animent actuellement. Si vous êtes curieux et curieuse de découvrir son travail, vous pourrez la rencontrer ce vendredi et dimanche de 9h à 16h30 au PAD, c'est au 3 boulevard d'Avier à Angers, juste à côté du CHU, l'entrée est libre et elle vous parlera de son travail avec beaucoup de simplicité et de générosité. Sinon, vous pouvez aller dès à présent sur son site ameliane-jouve.com. Voilà pour le programme de ce soir. Derrière le micro, c'est Annelie et le proverbe du jour est... Table sans sel, bouche sans salive. Je pense que vous comprendrez le rapport un petit peu plus tard dans l'émission. Comme d'habitude, on l'ouvre en musique avec un titre de Sofiane Pamar. Il est pianiste, le titre s'appelle Nara. Et juste après, on retrouve Améliane Jouve dans son atelier.
Alors, je m'appelle Améliane Jouve, je suis artiste plasticienne diplômée des Beaux-Arts d'Angers et je suis actuellement en résidence au PAD, donc à la pépinière artistique d'Avier, pour une résidence de un mois, carte blanche, donc où on met à disposition un atelier et un budget pour une recherche artistique, pour continuer ma démarche.
Là, on est plutôt à la fin de la résidence, t'es arrivée début janvier, je crois.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ouais. Donc, tu as pu investir l'espace, le lieu, faire plein d'expérimentations. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quels matériaux tu as utilisés, quelles matières, qu'est-ce que tu as manipulé pendant cette résidence?
Oui, alors en fait, cette résidence, elle est un peu particulière parce qu'elle vient juste après une autre résidence que j'ai fait, une grosse résidence à Calvi, avec un projet un peu lourd, très théorique. Et donc, cette résidence, je l'ai pris vraiment comme une sorte de chambre de décompression où mon objectif, c'était vraiment de faire des expérimentations, de travailler à partir des matériaux qui n'est pas forcément un procédé habituel dans ma pratique, où en général, je pars vraiment d'une idée, d'un concept et ensuite, je vais vers des matériaux. Et là, mon envie était vraiment de faire comme un laboratoire et de partir de matériaux, donc de deux matériaux particuliers qui sont la terre, qui est un matériau que j'ai déjà utilisé dans mon travail, et le sel. Et en fait, de faire des expériences avec tout ça. Donc
tu as pris de la terre qu'on utilise en céramique, en poterie. C'est pas de la terre de jardin, quoi, pour se représenter.
Alors, il y a les deux. J'ai utilisé donc de la faïence, différents types de faïence, rouge, noir, blanc, enfin voilà, parce que je voulais développer. Mais après, en fait, la terre, c'est un matériau que j'ai déjà travaillé parce que c'est un matériau qui fait sens pour moi. J'ai eu dans mon cursus artistique, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de territoire, de frontières et en fait du rapport à la terre, du lieu d'où l'on vient. Donc en fait, ça m'est déjà arrivé de travailler aussi la terre de jardin comme un matériau qui fait sens et pas uniquement une céramique ou un objet. Donc voilà, donc c'est pour ça que aussi la terre, ça rattache en fait à toutes ces questionnements et ces thématiques de recherche que j'ai eu à travailler dans le passé et qui aujourd'hui reviennent malgré tout.
Puis là, moi, je décloisonne pour qu'on se représente bien dans quoi tu mets les mains dans ta résidence, mais en fait, c'est quand même des matériaux qui sont ensemble, quoi, qui viennent du même endroit, de la terre, quoi.
Ouais. Enfin,
je pense à la polysémie de tous les mots de la terre.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu veux bien qu'on se rapproche d'un des objets, de quelque chose que tu as fabriqué et que tu pourrais nous décrire?
Oui, alors par quoi commencer? J'ai fait des sculptures de personnages, alors là-bas.
Tu te rapproches?
Ouais, ce sont. J'ai pas spécialement l'habitude de faire ça, mais en tout cas, moi, mon intérêt, c'était de faire des sculptures de corps et de les laisser sécher, mais trop vite, donc sans respecter les étapes pour faire sécher un objet en céramique, et donc en fait de le laisser craqueler. Et voilà, c'est un projet sur. Je voulais vraiment que la terre craquelle. Je pense que c'est des sculptures, j'appellerais genre les assoiffées ou quelque chose comme ça, qui sont vidées de leur eau et en fait qui gardent cette sorte de marque. Alors bon, voilà, hein, c'est un projet, je sais pas encore ce que ça va donner, mais c'est une des choses qui m'intéresse dans la terre, c'est toute sa faculté à craqueler, à se régénérer, à se recycler. Et voilà, dans plusieurs de mes projets, je pars d'une terre brute et puis je fais tout le travail pour en faire une terre modelable, c'est-à-dire de la trier, de la réhumidifier, d'en faire des pains de terre. Enfin, c'était par exemple un processus que j'avais fait pour une résidence il y a quelques années sur la question de l'habitat, où j'avais fait des briques, des tuiles et des carreaux de faïence, mais en partant de terre de carrière. Et tout ce processus-là, de partir de terre brute pour en faire un matériau de sculpture, déjà ça m'intéresse.
Mais c'est vrai que là, donc on a un personnage, c'est vrai, quand tu parles d'assoiffé, il a l'air assoiffé. Il est tout craquelé, il a, il a, il a, n'a pas l'air super en forme. Je veux pas être vexante, ni pour lui.
C'est un peu l'ambiance en ce moment, j'avoue. En fait, le dernier projet que j'ai fait à Calvi, donc j'ai travaillé beaucoup sur la frontière, le territoire, et surtout sur la notion de passage et la notion de limite. Et en fait, j'en suis arrivée à travailler sur une autre forme de passage très différente de mon champ de recherche habituel, mais qui est celle du passage vers l'au-delà, et en fait sur le rituel funéraire. Donc j'ai travaillé pas mal sur la figure du cadavre, du corps mort et de justement ce qui est en train de disparaître et qui va aussi être la source d'un renouveau. Et ça, c'est plutôt cette idée-là en fait qui se profile dans cette résidence-là, alors que c'était pas le but, mais en tout cas de ce que je suis en train de faire, il y a cette idée-là. Donc il y a par exemple tous ces petits personnages que je suis en train de faire, pareil en terre rouge, qui seront mélangés à une sorte de tas de déchets de terre qui attendent d'être recyclés. Donc il y a forcément l'idée du charnier, de tous ces corps qui sont jetés, mais qui en fait sur ces charniers-là repousse une végétation, et en fait il y a cet oubli, il y a ce temps qui passe, et forcément ça fait écho à tout le travail à l'art des vanités, à créer des objets pour nous dire d'une certaine manière on est en train de disparaître, on est en train de passer. Mais après ça rejoint aussi toute la fascination que beaucoup d'artistes ont eue, notamment au 19e et 20e siècle, sur justement l'objet du corps mort qui a été beaucoup étudié par la science, et qui, en fait, il y a quelque chose d'absolument immonde dans la décrépitude du corps. Et d'un côté, c'est ce qui est le début de quelque chose d'autres formes de vie. Et donc voilà, je pense que cette idée ressort un peu dans les pièces que j'ai produites pour cette résidence. Même si, ça paraît peut-être pas très clair vu comme ça, mais je sens que c'est quelque chose qui est en train d'infuser. Voilà, et puis notamment ces mains, donc j'ai fait tout un ensemble de mains en terre. Alors c'est un tout début de projet, mais l'idée c'était justement de faire des mains qui tentent de maintenir des choses qui sont en train de disparaître. Donc à l'origine je voulais faire des mains qui tiennent de l'eau qui est en train de s'évaporer par exemple, et qui en disparaissant laissent la marque de quelque chose, ou du sel, vu que je travaillais le sel en parallèle. Donc là je fais avec des fleurs séchées qui ont déjà disparu, et donc voilà, et puis c'est aussi en lien avec un morceau de texte que j'ai retrouvé, qui est en fait un début de texte que j'aimerais bien écrire. Voilà, qui commence pas comme ça, qui dit feu la place dont nous venons, feu les territoires que nous revendiquons, feu la frontière que nous bâtissons, la terre sur les os, nous appartenons au printemps. Et voilà, c'est un peu cette idée que malgré tout ce qui est en train de disparaître, on appartient au printemps et à cette terre qui va dans tous les cas se régénérer.
Je trouve ça intéressant quand on parle en fait cette idée de passage, mais qu'on peut voir dans plein de domaines différents. Il y a le côté très organique, biologique, corps en décomposition, insectes, qui va permettre d'autres vies, la mémoire aussi, enfin des choses qui nous appartiennent plus nous en tant que humains. Enfin, il y a toutes ces sphères, toutes ces thématiques dans différents endroits qui se croisent. Je me demandais, j'imagine que tu as fait des recherches autour des rites funéraires, des choses qui existent, ou pas forcément, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ce que tu as pu trouver dans ces recherches-là, toi, qui ont déjà été faites par d'autres, des cultures, des artistes?
Alors oui, évidemment, je me suis pas mal renseignée parce que j'aime bien aussi les recherches théoriques sur mes sujets. Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Alors ce qui est fou, c'est que dans de toute époque et dans tous les milieux du monde, il y a toujours la notion de rituel funéraire. C'est-à-dire que on ne conçoit pas en tant que civilisation de laisser à l'air libre comme ça des défunts qui ont fait partie de notre famille. Donc en fait, dans ce rituel de passage, il y a forcément une idée d'appartenance, d'identification, d'honneur, à cette personne-là, et ce passage-là est toujours accompagné donc de rites qui en général se décomposent en trois parties. partie, enfin, de manière générale, qui est la toilette mortuaire, donc le soin accordé au défunt avant pour lui rendre en fait sa dignité et son apparence entre guillemets originelle. Dans la deuxième, c'est le passage justement, et en fait d'accompagner le défunt du monde des vivants jusqu'au monde des morts. Et en général, il y a toutes les croyances qui sont en accord avec ça, à savoir si jamais ça se fait pas, le défunt va rester là, voilà. Et la troisième étape, qui est la commémoration, et donc ce devoir que se font les vivants de commémorer en fait pour prolonger la mémoire et faire exister la personne au-delà en fait de sa disparition dans la mémoire. Et voilà, donc, moi je trouve évidemment ce procédé très intéressant, très actuel, voire même atemporel. Et après, voilà, dans les faits des rituels, il y en a énormément. Moi, il y en a notamment un qui m'a intéressé et sur lequel j'aimerais bien faire un projet, mais qui est encore très flou parce que j'ai entendu parler de ce rituel et j'arrive pas à retrouver la trace. Donc, en fait, je me demande même si j'ai pas moi-même inventé ce rituel ou fait un mélange. Donc, je suis pas tout à fait sûre, mais en fait, j'ai cette idée qui est restée en moi enfin, ça fait très longtemps que ça traîne quelque part dans ma tête. J'avais vu ou entendu parler de ce rituel d'un peuple qui vivrait sur un fleuve et qui en fait n'a pas coutume d'enterrer les défunts. Évidemment, ça n'a pas de sens étant donné qu'ils vivent sur un fleuve, et donc qui, pour symboliser ce passage ou garder une appartenance du défunt, marquait, faisait un tatouage post-mortem qui gravait en fait des symboles sur le crâne, et qui en fait d'une certaine manière, si les os étaient retrouvés, on pouvait les identifier comme faisant partie de cette tribu ou de ce peuple-là. Et donc il y avait une manière de, enfin moi ce qui m'intéressait c'était de marquer cette appartenance ou ce signe d'appartenance jusqu'à être dans le corps, et de sorte à ce que ça se prolonge après et qu'on puisse identifier. Donc il y avait, voilà, tout un truc sur le rapport au territoire, à l'appartenance à un groupe, à un système de symboles que je trouvais très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait des crânes. Je fais pas mal de crânes en terre, et l'idée c'était de les graver avec de les tatouer, ou qui est ce rapport à l'image gravée, au symbole qui d'une certaine manière marque l'appartenance ou ce lien-là qui nous a jadis rattaché à quelque chose. Et puis bon, voilà, c'était un des...
Ouais, il y a plein de formes là autour de nous en cours de manipulation. Ouais. Enfin, on sent qu'il y a aussi beaucoup de contacts. Ouais. Voilà, ta blouse. C'est un espace en cours de travail.
Sigue siempre andando sin piedad. ¿Y qué importa? ¿Qué más da? Dentro de ti estoy yo, nadie.
C'était Salta, un titre de MeToo et Elaminus, dans l'oreille curieuse sur les ondes de Radio G. Ce soir, nous sommes avec l'artiste Améliane Jouve, une plasticienne qui est en résidence en ce moment et jusqu'à la fin de la semaine, à l'invitation du collectif Blast. Si vous voulez découvrir son travail, le studio sera ouvert ce vendredi et dimanche de 9h30 à 16h et même de 9h à 16h30 pour être tout à fait exact. On retourne avec Améliane à la découverte des formes qu'elle crée dans son atelier.
Est-ce que tu sais un petit peu après cette résidence, où est-ce que tu as envie d'emmener ces recherches-là? Tu disais bon, c'était pas forcément prévu de travailler ainsi ou sur ces thématiques-là. Est-ce que ça a ouvert aussi des suites pour toi, ou ça c'est encore à préciser plus tard?
Alors en fait, moi au début, je me suis dit voilà, je crée des choses sans que ce soit des projets, je réfléchis le minimum possible, et voilà, je fais des sculptures, voilà, c'était l'idée de sans vraiment pas me projeter. Et en fait, au final, évidemment, il y a des choses qui émerge et qui me donne envie de prolonger. Donc ouais, c'est assez surprenant, hein. C'est même très récent, je me dis ah mais en fait si, ça va donner un projet qu'il va falloir que je pousse. Et puis alors, notamment sur toutes les expériences que j'ai fait avec le sel, alors en fait le sel aussi c'est un matériau que j'ai rencontré dans mes créations. Alors c'est un peu long à expliquer toute l'histoire du sel que j'ai trouvé fascinante, mais en tout cas c'est un matériau qui a toujours été très important dans la civilisation, parce que c'est un matériau de première nécessité, et c'est une des ressources qui a poussé notamment les civilisations dès l'âge de bronze à se déplacer et en fait à créer des routes de transhumance. Et ces routes de transhumance là, des siècles plus tard, ont été les raisons des premières limites et des premières frontières. Donc en fait, quand moi je faisais toutes mes recherches sur les frontières, il y avait déjà dans le sel quelque chose qui prédestinait la limite, la frontière, et après beaucoup de choses. Donc j'ai un peu creusé, et en fait dans mon mémoire aussi, j'ai eu dans mon mémoire donc de fin d'année, fin d'études aux Beaux-Arts, je me suis retrouvée à identifier, ou en tout cas à mettre en parallèle deux événements historiques en rapport avec le sel. Alors, donc pareil, ça, je ne sais pas si la logique va être très claire, mais en tout cas, voilà, j'ai découvert donc en 1542, il me semble que l'État met, enfin, il y a déjà une taxe qui s'appelle donc la gabelle sur le sel, mais en tout cas, elle la répand et l'intensifie. Et en fait, ce qui provoque dès 48 des émeutes en France, et donc le peuple se soulève contre cette loi qui est d'interdire la vente ou le libre-échange de sel. Et donc, en fait, donc l'État a le monopole, et les personnes sont obligées d'aller acheter ce sel, donc il y a une dépendance, et donc voilà, le peuple se soulève contre cette interdiction-là. Et en fait, évidemment, c'est maté par une répression terrible. Et suite à cet événement, donc Étienne de la Boétie, qui est un auteur de l'époque, écrit un texte qui s'appelle « Discours sur la servitude volontaire ». Et en fait, c'est reconnu à peu près comme un des premiers textes à théoriser l'aliénation d'un peuple. Et en fait, sur ce principe très clair qui est « un tyran n'a pas vraiment de pouvoir, sauf parce qu'on lui en donne, et parce qu'on obéit, et parce qu'on collabore avec ce qu'il nous demande. Mais en soi, un tyran n'est qu'une personne et n'a pas plus de poids. » Donc en fait, l'oppression, c'est dans ce fait que nous obéissons. Et donc après, c'est évidemment une théorie qui a été reprise tout au long de l'histoire, et qui a donné notamment le principe de la désobéissance civile. Et donc ce texte qui est écrit par rapport à une révolte sur le sel en 1500 en France. Et d'un autre côté, on retrouve en 1930 une action politique menée par Gandhi en Inde, qui donc à cette époque est sous le régime une colonie britannique, et cette colonie britannique justement impose aussi ce monopole sur le sel. Et ce que fait Gandhi comme premier vraiment acte politique pacifique, c'est qu'il fait cette marche du sel où il traverse le pays à pied. Et donc il rencontre les personnes commencent à le suivre, il fait des meetings tout au long du chemin, et il arrive sur le bord de la mer et il récolte du sel. Et en fait, par ce geste symbolique, il invite le peuple entier indien à se réapproprier sa ressource qui est le sel, et de désobéir à l'État britannique en récoltant du sel. Donc évidemment, les Indiens suivent ce mouvement, commencent à créer, récolter, s'échanger du sel illégalement. L'État britannique est obligé de tous les arrêter, et une des directives évidemment de Gandhi, c'était si jamais vous faites arrêter, non-violence, vous vous laissez embarqués. Donc les prisons sont prises d'assaut et en fait l'État est obligé de céder, de relâcher les gens. Et donc en fait c'est la première vraie victoire de cette politique de la non-violence et de la désobéissance. Et donc en fait moi ce qui m'intéressait là-dedans c'était que privés de ce matériau poussent les peuples à se soulever et en fait à franchir une limite. Donc d'un côté on a du sel qui va nous pousser à créer une frontière et d'un autre côté on a cette interdiction qui va nous pousser à nous affranchir de quelque chose, en tout cas à dépasser. Donc voilà, donc pour moi il y avait vraiment dans cette matière une cohérence avec la limite, le dépassement, la désobéissance, le fait de franchir quelque chose. Donc voilà, donc ça c'était, donc ça a donné d'ailleurs une installation que j'ai fait à partir du sel où c'était juste une ligne de sel qui nous invitait, qui nous interdisait de passer, il nous invitait aussi. Enfin, voilà, il y a tout ce. Dans mon travail, on retrouve souvent cette tension entre interdire quelque chose et d'un côté cette possibilité de la transgression et comment, en tant que visiteur dans une expo ou même en tant que personne, on se situe dans cette tension de l'interdiction. Mais je suis tentée de passer, mais en fait, non, et c'est pas bien. Et voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, voilà, donc le sel est resté comme ça, tout ça pour revenir au sel, mais c'est resté quelque part dans ma tête, et c'est une matière qui me paraît très intéressant, notamment parce que c'est une source de vie, et d'un côté c'est quelque chose qui brûle, qui oxyde, qui va dans la corrosion, quoi. Donc voilà, donc là après j'ai continué mes recherches et mon intérêt pour le sel, mais dans une autre direction qui est en fait pareil, j'ai découvert que dans l'ancien Proche-Orient, c'est toujours des histoires qui datent, hein, mais c'est aussi ce qui m'intéresse.
Ouais, puis c'est intéressant quand tu les racontes, on les voit aussi très proches de nous, quoi, sur ces questions de frontières, de questions politiques aussi. Enfin, c'est à la fois très loin et peut-être pas si loin que ça, quoi.
Bah ouais, à chaque fois en fait moi ce qui m'intéresse en tout cas dans la manière dont je cherche ou je réfléchis les choses, c'est il y a toujours des sources très anciennes mais qui sont révélatrices de systèmes qui sont très actuels en fait et qui révèlent des choses qui sont encore d'actualité et c'est ça qui m'intéresse, pour ça que je fais des recherches aussi historiques ou tout ça, mais parce qu'en fait ça se répète tout le temps. Et donc en fait là, donc ce que j'ai découvert notamment, c'est une coutume ou en tout cas une politique qui consiste à quand une ville est vaincue ou qu'on veut la purifier ou la maudire, elle est rasée, labourée et on est salée. Et en fait, il y a ce geste, en tout cas, de saler la terre, de saler des territoires entiers, des villes entières, avec cette idée de je détruis quelque chose, je le laboure et plus rien ne poussera au-dessus. Donc il y a quelque chose d'extrêmement radical et de très violent dans l'idée de purifier par le sel, c'est-à-dire que plus rien ne pourra pousser et toute personne qui essayera de cultiver les champs après, elle se retrouvera dans des terres salées. Donc voilà. Et donc là, en fait, je suis en train de faire des essais de dissoudre ou en tout cas de faire des corrosions sur des cartes. Donc j'aimerais bien faire plus de recherches sur quelles zones géographiques justement ont subi ce genre de purification de coutumes et ensuite d'essayer de transposer ça sur des cartes avec le rapport entre le papier et le sel. Bon voilà, c'est pareil, hein, c'est un début de recherche, je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, je trouve ça très intéressant comme tout, très étrange, mais
ouais, moi ça me frappe quand je t'entends parler du sel. Enfin, au départ on se dit bah du sel, on pense côté cuisine. Aujourd'hui voilà, ouais, j'ai du sel sur la table. Et puis bah il y a tout ce côté que t'as décrit, d'échange, de limites. Il y a la superstition aussi, jeter du sel par-dessus son épaule. Enfin là c'est comme la terre, quoi. C'est à l'intersection de plein de choses.
Puis aujourd'hui on se rend pas compte de l'importance du sel parce que c'est une denrée qu'on a en abondance. Donc et qu'on utilise pas tant que ça, enfin je veux dire, si on a le sel de table, mais après bon, le sel il est partout, mais donc c'est vrai que je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ce que ça a pu être dans l'histoire, comme d'ailleurs le mot salaire vient de sel, c'est une proportion de sel, en fait tout ça parce que c'était une monnaie d'échange, c'était une denrée rare, c'était quelque chose, enfin, selon les époques, après ça a évolué, donc des fois c'était rare, des fois ça l'était moins, donc
Voilà. Je regarde un peu autour de nous. Donc, il y a des bacs, de l'eau, des moules en plâtre. Tu moules des choses.
Ouais, j'ai
un pot de sel, bien sûr. des carafes.
Des choses qui trempent, là. Voilà, j'ai justement, avec le sel, au début, j'ai essayé. Enfin, je fais des expériences de cristallisation. Et également, j'ai fait des petites sculptures en plâtre, là, des visages, que j'ai trempées dans de l'eau saturée en sel pour voir, en fait, comment le sel remontait par capillarité dans du plâtre, dans de la terre, et voir en fait comment il allait se cristalliser ou ronger la matière. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui décantent un peu partout.
Là, on est à quelques jours de la fin de cette résidence d'expérimentation. Ouais. On sait que les lieux de culture sont fermés, etc. Est-ce qu'il y a quand même un moment d'ouverture possible si on a envie de voir ton travail, ou c'est compliqué, ou comment ça se passe, ou bien sûr, je sais pas, un site internet, des choses.
Alors bon, oui, évidemment, j'ai un site internet qui est mon nom, Améliane Jouve, ce qui est très compliqué. Et alors pour cette résidence, effectivement, on va faire une journée d'ouverture de même 2 jours, donc vendredi et dimanche de cette semaine. Toute la journée sera ouvert l'atelier, donc ce sera possible de venir visiter, me rencontrer, voir, discuter. Voilà, donc ce sera ouvert donc vendredi de 9h à 16h30. Donc tout le monde est invité à venir, donc à 3 boulevard d'Avier à Angers, donc au PAD. Et dimanche également, de 9h à 16h30, je recevrai le public. Donc évidemment, il y a une jauge de 10 personnes, forcément avec le climat sanitaire actuel. Mais bon, voilà, donc c'est possible de venir. Et puis, donc ce sera vraiment montrer les projets en cours. Et ce ne sera pas vraiment une exposition à sens strict, plus une ouverture d'atelier. Mais voilà.
Ouais, voir concrètement. Et puis autour, il y a beaucoup d'espace, beaucoup d'air, si on veut attendre.
Voilà, oui,
j'imagine tout ça.
Oui, c'est quand même assez agréable.
Ce sera certainement accueillant. Et par rapport à toi, à ton travail en général, ou à ta démarche, enfin là, on a parlé vraiment de ta résidence en ce moment, de ce que tu fais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu travailles, d'autres formes ou d'autres matériaux que tu manipules habituellement et dont tu as envie de nous parler, pour voir comment cette résidence, elle s'inscrit aussi tout ton travail artistique précédent, j'ai pas envie de dire habituel en fait, mais voilà.
Alors, j'ai pas de matériaux qui sont, à part la terre, qui j'avoue revient souvent, mais en fait, comme je disais, en général, j'arrive à des matériaux selon le projet en fait. Donc ça m'a amené à travailler tout un ensemble de choses, que ce soit du bois, du papier, de la broderie, de la sérigraphie, et bien sûr de la terre, du béton, du pâte, enfin bref. Après là, moi récemment, ce qui a pas mal occupé mes derniers mois, ça a été donc ce projet de résidence dont je parlais au début, qui est un projet que j'ai mené à Calvi, donc en Corse, au centre de conservation du patrimoine. Et c'est vraiment ce projet-là aussi qui m'a emmenée sur une nouvelle direction, à savoir la question du rite funéraire, du passage de la mémoire. Et donc c'est un projet qui se base sur une pièce de théâtre à l'origine, donc d'un auteur qui s'appelle Laurent Godet. La pièce s'appelle Cendre sur les mains. Et en fait, ce projet qui parle, voilà, de fossoyeurs qui brûlent des corps pendant un génocide, et puis une rescapée qui va au contraire essayer de garder une trace et une mémoire de ces corps-là en faisant des gestes de mortuaire. Bon, je résume, voilà, mais donc c'est à peu près l'ambiance, hein, on voit. Et en fait, moi, à partir de ce texte-là, j'ai proposé une installation à base de sculpture, et en fait, j'ai sculpté du savon. L'idée, donc, c'est de créer des visages, en tout cas, de ces deux fossoyeurs-là, de ces sculptures en savon. Et l'intérêt, c'est évidemment que ce matériau savon est une matière qui est présente dans le texte. Et donc, voilà, je me suis évidemment inspirée du texte. En fait, l'intérêt, c'est que pendant l'exposition, les visiteurs pourront toucher ces visages-là et faire réadapter les gestes de la rescapée du texte, ou en tout cas de ces attentions sur un corps en train de disparaître, et justement provoquer au fur et à mesure l'érosion, la disparition du visage, jusqu'à arriver à un crâne en céramique qui est en fait à l'intérieur. Donc j'ai d'abord créé un crâne en céramique et j'ai créé le visage dessus. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre dans les dans les mains du visiteur ce pouvoir, cette responsabilité sur l'œuvre, de pouvoir interagir, la faire disparaître ou s'en souvenir. Enfin voilà, il y a vraiment ce rapport à la mémoire, à la disparition in situ, presque dans un temps réel. Et puis après, ce savon-là, je voulais qu'il soit fait à partir de cendres. Pareil, parce que ça avait du sens dans la pièce. Donc j'ai fait tout un ensemble de recherches. J'ai travaillé avec des savonniers, avec des chimistes pour trouver la recette où ça pourrait être fait à partir de cendres et de chaux. Enfin, donc j'ai toujours un rapport aussi aux matériaux où c'est pas juste pour leur qualité plastique ou esthétique que je les choisis, mais parce que à un moment, ces matériaux font sens aussi dans la démarche, dans le processus. Et voilà, pour moi, tout ça, tout est important, que ce soit la forme, la matière, la manière dont c'est installé, la manière dont ça se sera reçu par les visiteurs et quelle place ils auront face à l'œuvre. Et puis évidemment, en fait, l'idée qui est développée et qui est sous-jacente à tout ça. Donc voilà, donc les derniers matériaux que j'ai utilisés, c'était le savon, la terre. Et puis après, voilà, cette résidence m'a aussi poussée à développer d'autres projets, des projets vidéo, photographiques et puis sonores. Donc j'ai eu à travailler avec une comédienne pour interpréter le texte aussi. Donc voilà, c'est toujours une idée, une toute petite idée au début qui nous amène par ramification en fait à faire tout un ensemble de recherches théoriques dans les matériaux et voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi, hein, toute cette recherche, ce processus, toute cette énergie développée pour finalement.
Cool. Bah merci beaucoup, Emiliane.
Bah de rien. Ouais, en tout cas, vous êtes tous les bienvenus donc vendredi et dimanche pour visiter l'atelier. Mmh. Puis pour discuter un peu plus sur le travail et sur tout ça.
Ouais. Et puis, enfin, moi, ce que je remarque aussi, c'est que effectivement, on parle de passage, de questions de deuil ou de disparition. Enfin, ça peut paraître un peu froid, mais c'est peut-être aussi comment on s'en est coupé aujourd'hui. Enfin, quand on voit ce que tu fabriques, c'est pas du tout une ambiance triste aussi.
Oui,
enfin,
non, j'ai pas du tout comme ambition de faire un travail macabre, hein, pas du tout, et en tout cas c'est pas ce que je cherche. Alors j'espère que dans ce que j'ai dit ça te transparaît pas, ou on n'a pas l'impression que c'est des cadavres, la mort, pas du tout. Puis voilà, moi enfin c'est à l'origine, mais mes intérêts c'est plutôt sur ces questions de territoire, de terre, de frontières, d'appartenance, de déplacement d'ici, d'ailleurs, et de rapport à l'autre. Donc c'est un peu plus complexe que ça. Après voilà, aujourd'hui j'en arrive à travailler sur ces questions là mais qui sont en fait des étapes dans la vie et dans la manière de vivre. Donc voilà, c'est une suite logique, mais non, c'est pas du tout macabre. En tout cas, j'espère pas. C'est pas le but. C'est pas le but. Au contraire, c'est d'amener une vision un peu plus poétique et enfin différente de ce qui est justement en général est froid ou assez terrifiant.
Vous écoutiez l'artiste Emiliane Jouve, qui est plasticienne et qui nous parlait de son travail, le travail qu'elle a mené en résidence à Angers, une résidence proposée par le collectif Blast. Alors je vous rappelle toutes les infos si vous avez envie de la rencontrer et de voir ce qu'elle a pu fabriquer. C'est ce vendredi et dimanche de 9h à 16h30. L'entrée est libre, ça se passe au 3 boulevard d'Avier, juste à côté du CHU. Et si vous avez envie de jeter un œil sur les autres projets d'Emiliane, vous pouvez aller sur son site emiliane-jouve.com. Voilà pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de l'Oreille Curieuse. Vous pouvez réécouter toute cette émission, comme toutes les autres, en ligne et en podcast sur la page de l'émission, sur le www.radio-g.fr. Nous, on se retrouve demain à 18h10, une émission où il y aura le guichet choral, la chronique cinéma proposée par Céleste, qui nous parlera de transmédia, si je n'écorche pas le terme. Et il y aura également le prêt-à-penser, la chronique psy proposée par Nicolas. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, nous contacter, nous faire des retours, que ce soit par mail à prog.radio-g@gmail.com ou via les pages des différents réseaux sociaux de Radio G, Instagram, Twitter, Facebook. On sera toujours ravis de vous lire. Je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Vous avez rendez-vous avec la programmation musicale de Radio G pour une dizaine de minutes. Et puis à 19h, vous retrouverez votre rendez-vous un mardi sur deux. C'est tendance à me plaire. Passez une excellente soirée. À demain dans l'Oreille Curieuse.
easy to say. And you know, 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 I'm not a quitter. With you I will stay. But better kick me out of here. Won't give up, won't give up, no, never. But better kick me out of here. Won't give up, won't give up, no, never. Now I stand for it. Never lose my temper.
FM.